Freddy Ethan, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Freddy Ethan, vous êtes ancien diplomate israélien. On va commencer avec vous par parler de ce qui se passe en Iran, où on a appris aujourd'hui non seulement que les manifestations se poursuivent, mais que les autorités iraniennes commencent à tirer à balles réelles sur les civils. Il y aurait de nombreux morts, on n'a pas de bilan encore, mais la situation semble de plus en plus tendue en Iran. Et puis, surtout hier, on a appris une chose incroyable. Les services secrets israéliens extérieurs, le Mossad, ont publié sur leur compte X un message de soutien aux manifestants. Et le Mossad a précisé, mais c'est pas un message qu'on vous envoie de loin ou juste pour être avec vous. On est avec vous sur le terrain, on est avec vous à vos côtés pendant les manifestations.
Écoutez, le mouvement de protestation qui est contre la vie chère, il faut le rappeler, ce sont des commerçants pour la première fois qui manifestent. Et la dégradation, parce qu'il y a une dégradation de la situation économique, avec, vous savez, il faut un million et quelques de la monnaie iranienne pour obtenir un seul dollar. Et c'est étendu, je crois, dans la province. L'Iran est un pays très vaste, 90 millions d'habitants. Et donc, les manifestations ne sont pas, par exemple, à Téhéran, la capitale. Alors, pour l'heure, certains pensent, et des experts pensent, que ces manifestations, bien qu'il y a eu plusieurs morts, ne semblent pas non plus alerter les gardiens de la révolution. Donc, ceux qui sont sur le terrain, ce sont des agents du Bassid, c'est-à-dire la police intérieure. Et donc, la chute du régime islamiste n'est pas pour demain. Mais en Israël, on craint, dans ce contexte-là, une attaque, je dirais, désespérée des ayatollahs contre Israël, qui n'est pas à exclure. Parce que dans une situation ainsi, où il y a un mouvement populaire qui essaye de débranler le régime, avec l'appui des Israéliens et des Américains et de l'extérieur aussi par des messages. Le mouvement, par exemple, du prince héritier Pahlavi, qui se trouve à l'étranger, mais qui est venu en Israël pour essayer de demander à Israël une aide pour un changement de régime. Et je crois que dans ce contexte, je crois que la coordination avec les États-Unis est capitale pour contrer dans les relations, dans la rencontre avec Netanyahou et Trump à Palm Beach il y a 48 heures. On a parlé, on a évoqué donc cette menace, cette tentative peut-être des Iraniens de lancer des missiles balistiques, parce qu'ils ont reconstruit des missiles balistiques, et peut-être même des drones des drones explosifs contre Israël. Et donc, face à ces menaces qui sont, il faut le dire, existentielles, donc la coordination avec les États-Unis est importante.
Comment vous avez trouvé, d'ailleurs, ou analysé cette rencontre, la cinquième, hein, je crois, depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir au mois de janvier de l'année dernière, 5 rencontres avec Benjamin Netanyahou. Il y avait quand même quelques divergences sur certains sujets. Hein.
Oui, c'est la 6e rencontre.
6e.
Et je dirais même la 7e, parce qu'après cette rencontre à Mar-a-Lago avec la délégation israélienne, et il y a eu la présence du couple Netanyahou à un gala du Nouvel An offert par Trump, et Netanyahou a rencontré une nouvelle fois Trump. Donc, je crois que c'était une bonne visite. Elle a réussi, je dirais, à dissiper certains malentendus. Les malentendus, les divergences sont surtout l'avenir de la bande de Gaza. Et Trump demande évidemment des concessions parce qu'il veut commencer la deuxième phase. Et la deuxième phase a des problèmes, c'est-à-dire que d'une part, nous disons tant que l'otage, la dépouille, donc le corps
De Ranvilir.
de l'Israël, oui, n'a pas été rapatrié, donc nous ne voulons pas commencer la deuxième phase. Mais la deuxième phase aussi est importante pour les Américains parce qu'ils veulent reconstruire Gaza, mais Israël demande d'abord que le démantèlement du Hamas. Donc il y a des divergences sur ce point-là. Et surtout pour ce qu'on appelle donc la force internationale. Et cette force internationale, comme vous le savez, la Turquie d'Erdogan essaye d'intervenir. Israël ne souhaite pas du tout la Turquie, comme la Turquie, comme le Qatar, soutient le Hamas, puisque s'il s'agit donc des frères musulmans. Mais je crois que pour résoudre les différents problèmes, et je crois qu'ils sont capables, les deux, parce que cette rencontre a dissipé les malentendus, mais a consolidé les relations israélo-américaines. Vous savez, les Américains nous offrent ou nous donnent une aide assez importante sur le plan économique comme sur le plan militaire. Mais nous voulons que cette aide soit pour plusieurs années encore. Et donc, ils ont accepté le principe donc de nous offrir cette aide qui est très importante. Et donc, nous voulons, dans ce cadre-là, ne pas essayer de montrer par là que nous ne voulons pas collaborer et donc coopérer avec les Américains. Mais il faut le dire aussi, avec toute l'amitié qu'il y a entre personnel, entre Trump et Netanyahou, Trump et les Américains en principe, chez eux, il n'y a pas de repas gratuit. Et donc Netanyahou doit faire des concessions, par exemple l'ouverture des passages entre l'Égypte à Rafah, entre l'Égypte et Israël, des deux côtés d'ailleurs, et une aide encore plus importante effectivement sur le plan humanitaire, et en plus faire ce que les journalistes demandent, donc la permission donc de la presse étrangère pour voir sur place, sur le terrain, les dégâts et ce qui se passe à Gaza pour essayer de montrer au monde, pas seulement par Al Jazeera, mais par la presse internationale.
Alors, il y a un proxy de l'Iran, le Hezbollah, qui inquiète également. On a appris aujourd'hui que l'Égypte, le Qatar et la Turquie ont accordé au Hezbollah une dernière chance pour désarmer et remettre ses armes au gouvernement libanais. Le gouvernement libanais avait dit que d'ici le dernier jour de l'année 2025, autrement dit hier, il aurait récupéré la totalité des armes du Hezbollah au sud du fleuve Litani. Force est de constater qu'il n'y est pas arrivé. Ces trois pays font pression sur le Hezbollah, mais de la même façon que le Hamas, le Hezbollah dit, nous, on rendra pas nos armes.
Oui, non, mais c'est la tactique donc du Hezbollah. Et le Hezbollah est soutenu par l'Iran. Tant que l'Iran dit au Hezbollah, continuez donc dans cette optique et dans cette politique de ne pas rendre les armes, vous êtes des Libanais avant tout, donc vous devez sauvegarder et défendre donc l'État libanais. Dans ce contexte, je crois qu'il y a un ultimatum. Et dans les conversations de Netanyahou avec Trump, on a évidemment parlé de ce sujet, et Trump a donné à Netanyahou le feu vert que s'il n'y a pas de démantèlement du Hezbollah, comme d'ailleurs pour le Hamas, s'il n'y a pas de démantèlement et la remise des armes, eh bien Israël a le droit de réagir ponctuellement contre tel ou tel, soit stock de munitions, soit contre des positions du Hezbollah comme du Hamas.
Freddy Etan, l'année qui s'ouvre, 2026, est une année électorale en Israël. Normalement, au mois d'octobre, il y aura des élections législatives en Israël. Comment vous percevez cette année, avec les tensions dont on vient de parler, qui se poursuivent depuis plus de 2 ans, et l'amorce donc de futures campagnes électorales qui vont s'annoncer dans les semaines, dans les mois qui viennent, avec peut-être aussi la possibilité d'élections anticipées?
Oui, il y aura des élections. Je ne crois pas que Netanyahu et Trump sont très malins, je dirais. D'une part, Netanyahu a demandé donc la grâce, mais aussi lui a offert le prix Israël, c'est-à-dire la distinction la plus la fois dans l'histoire d'Israël depuis 1948 qu'on décerne donc ce prix à un étranger, même qu'il soit le meilleur ami d'Israël. Alors, Trump va venir pour le Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, qui en principe va se faire au mois de mai, aura lieu le mois de mai. Et donc, on pense que cette intervention de Trump à la veille des élections est inadmissible, évidemment. Et deuxièmement, Netanyahu va jouer avec cette visite pour renforcer donc sa position auprès des électeurs. Ça va de soi. Il aura plusieurs points pour prouver par là qu'il n'y a pas d'autre amitié. Les Américains sont nos meilleurs alliés, donc il n'y a que Trump qui peut nous aider. Et là, je crois que Netanyahu déclara au mois de juin, donc quelques semaines plus tard, des élections anticipées. Parce qu'il doit être proche donc de cette visite pour prouver par là, donc pour lancer sa campagne électorale. Et d'autre part, il ne faut pas non plus que Trump intervienne dans nos affaires intérieures et demande au président Herzog d'acquitter ou de gracier donc Benjamin Netanyahu. Seule la justice doit trancher et le verdict est par les juges de Jérusalem et non pas des États-Unis. Alors, c'est là le problème. Et je crois que cette campagne sera très agitée, très houleuse. Je crois qu'elle sera très violente. Déjà, on le voit, il y a non seulement sur le plan je dirais même de cette violence verbale dans les débats
télévisés. Bon, c'est pas nouveau, Freddy Etan.
Oui, non,
Toutes les campagnes en Israël sont très violentes.
Oui, non, mais pas seulement des choses, mais il y a des. Par exemple, quand un ministre des Finances dit au président de la Cour suprême, eh ben, on n'a pas le choix, on va vous écraser.
Piétiner, il a dit.
Comment ?
Il a dit piétiner. Je vais vous piétiner.
Oui, mais en hébreu, c'est écraser.
Écraser.
Pas piétiner seulement. Ouais. Écraser par une voiture. Ça va de soi. Et la caricature ce matin de Haaretz, c'était avec une voiture.
Avec une voiture.
Donc, cela prouve par là qu'il y a une incitation à la haine et Israël est déchiré par non seulement entre juifs et arabes, mais surtout entre juifs laïcs contre juifs qui sont ultra-orthodoxes, puisqu'il y a, comme vous le savez, des problèmes. Il y a chaque jour des manifestations des Haredim, donc des ultra-orthodoxes, contre la mobilisation à l'armée. Et surtout, quand on a besoin de soldats, et le chef d'état-major vient d'annoncer tout à l'heure, d'ailleurs, un programme pour l'armée israélienne qui va non seulement faire des réformes importantes au sein de l'armée, mais augmenter donc les effectifs, et sur le plan aussi technologique et autres. Donc, il y a là plusieurs problèmes. Cette campagne sera très dure. Mais le camp, je crois, le verdict du peuple n'est pas tout à fait, même si les sondages donnent favori à l'opposition, mais comme vous le savez, c'est une des élections proportionnelles, et donc il s'agit de voir qui est la personne, qui est le leader qui pourra former une nouvelle coalition. Et au sein de l'opposition, hélas, au sein de l'opposition, il n'y a pas, on tire les couteaux, il n'y a pas un seul leader qui pourrait demain dire, voilà, j'ai rassemblé donc les rangs dans l'opposition et je serai demain le Premier ministre. Il n'y a pas de problème à la droite, donc il n'y a pas de problème chez Netanyahou. Il sera plébiscité donc plus dans ces élections, malgré, même s'il n'obtiendra pas le pardon, donc la grâce du président Herzog.
Freddy Ethan, merci d'avoir été avec nous en ce premier jour de l'année 2026 et en direct. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate israélien. Merci et bonsoir, Freddy Ethan.
Bonsoir et bonne année.